toujours très spectaculaire.
Une formule assez inquiétante que la presse doit diffuser des idées saines. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, c'est pas la désinformation.
Divertissement, télé-réalité, magazine, information.
Plus rien n'est plus comme avant. La censure municipale s'exerce à pareil une véritable inquisition.
Les forces de l'ordre font preuve de beaucoup de présence.
Aujourd'hui, je veux dire avec force, avec conviction et avec sincérité que le service de la France et des Français a besoin
d'Indy Media.
Bonjour, bienvenue sur Radio Kaléidoscope 97 FM pour l'émission d'Indie Média Grenoble qui a lieu tous les troisièmes jeudis du mois entre 19h et 20h30 en direct avec rediffusion le samedi à 15h. Mais alors au fait, Indie Média, c'est quoi, Juliette ?
Indie Média, c'est d'abord un site internet grenoble.indiemedia.org qui fait partie d'un réseau de sites d'information. Le réseau est mondial, mais les sites sont locaux. Le fonctionnement du site est basé sur plusieurs principes.
Donc, premier principe, la libre publication ou publication ouverte. C'est-à-dire que chacun peut publier ce qu'il ou elle veut informer à propos des luttes auxquelles il ou elle participe. C'est donc un média participatif.
Le deuxième principe, c'est la non-neutralité, car l'objectivité n'existe pas, c'est bien connu. Contrairement aux médias dominants bourgeois, Indie Média l'affirme et pose dans une charte des principes expliquant la ligne politique du site. Par exemple, pas d'article à caractère discriminatoire.
Vous pouvez donc lire les articles d'Indie Média ou publier vous-même des articles sur grenoble.indiemedia.org.
Alors ce soir, le thème de l'émission, c'est les nanotechnologies. Et toutes les nécrotechnologies associées. Donc on va un petit peu voir ce qui se passe à ce sujet à Grenoble en ce moment et dans les jours et semaines à venir. Et ensuite on va un petit peu plus discuter de nanotechnologies et ensuite ouvrir un peu le débat vers toute la société industrielle et ce que ça peut avoir de nocif ou par exemple. Voilà. Et donc pour ça on a plusieurs invités.
Ouais, alors autour de la table, il y a plein de monde. Il y a déjà Sam, qui est une personne de formation scientifique et qui s'est beaucoup intéressée au sujet des nanotechnologies et aussi de la situation dans la cuvette grenobloise, du monde scientifique dans la cuvette grenobloise. On en parlera. Il y a aussi Lucas, qui est membre d'OGN. Alors OGN, c'est Opposition Grenobloise aux Nécrotechnologies. Il nous expliquera pourquoi nécrotechnologie peut-être tout à l'heure. Et il y a aussi Xavier et Julien qui sont deux membres d'un collectif qui s'appelle Stop EPR Grenoble et qui nous expliqueront aussi ce que c'est que ce collectif. Mais on va commencer tout de suite.
Donc peut-être que Sam, tu pourrais nous faire un topo sur ce que c'est que les nanotechnologies par exemple.
Bien sûr, bonjour tout d'abord. Alors l'expression nanotechnologie, ça désigne un ensemble d'outils qui permettent de manipuler la matière à l'échelle du nanomètre, c'est-à-dire à l'échelle du milliardième de mètre. À cette échelle, on peut manipuler les atomes comme des Legos, ce qui ouvre plein de perspectives en termes de miniaturisation, notamment informatique. On peut faire des téléphones portables extrêmement petits, des ordinateurs encore plus petits. Des perspectives aussi en termes de biologie, sur la manipulation des graines, etc. Sur la manipulation de nouveaux matériaux, on nous parle de tissus imperméables anti-tache, de gilets pare-balles extrêmement légers, ou encore la création de nouvelles armes, comme des missiles intelligents, etc.
Et donc, en ce moment, on entend pas mal parler de Minatech, donc ça a l'air d'être lié aux nanotechnologies, donc qu'est-ce que c'est que ce projet Minatech ?
Alors Minatech, c'est un projet grenoblois, c'est le plus grand centre européen en micro et nanotechnologie qui sera inauguré le 2 juin prochain à Grenoble. Il y en aura 3 dans le monde au total, il y en aura un aux États-Unis, dans la vallée de Santa Clara, la Silicon Valley, un au Japon et donc un en Europe, à Grenoble. Alors d'abord Minatec en quelques chiffres. Minatec, ça sera 4000 personnes, ça sera vraiment un grand centre. Il a coûté 190 millions d'euros, c'est vraiment beaucoup, dont 75% de subventions publiques du Conseil Général de l'Isère, qui est le maître d'œuvre de ce projet, mais aussi de l'État, de la mairie de Grenoble et de la métro. Le pilote de Minatec, c'est le commissariat à l'énergie atomique de Grenoble, qui avant était plutôt sur le nucléaire et qui maintenant de plus en plus se tourne vers les nanotechnologies et les biotechnologies. Donc c'est le pilote du projet Minatec. Et enfin, Minatec s'est présenté au départ comme un projet civil. Et récemment, la ministre des Armées, Michèle Alliot-Marie, est venue à Grenoble le 26 mars dernier pour visiter Minatec. Et elle nous a dit que Minatec, c'est aussi un projet militaire. Concrètement, la Direction Générale de l'Armement a signé un contrat avec Minatec qui permet à la Direction Générale de l'Armement de contrôler en partie le choix des recherches, d'avoir un accès prioritaire aux découvertes. Et voilà, donc c'est surtout aussi de plus en plus un projet militaire. Donc grosso modo, Minatec, pour résumer, c'est un énorme centre qui sera inauguré le 2 juin prochain à Grenoble, qui fera des recherches pour des applications industrielles et militaires, et le transfert de technologies, donc justement vers l'industrie.
Ok, donc à propos de cette inauguration, donc il y a le collectif OGN qui appelle à manifester contre. Donc peut-être que tu peux nous présenter un peu le collectif. Et...
Oui, bonsoir. Donc le collectif OGN, opposition grenobloise aux nécrotechnologies, c'est un CDD, c'est un comité à durée déterminée. L'idée, c'est de... L'objectif principal, c'est d'emmener le maximum de gens manifester le 1er juin contre l'inauguration de Minatec. Et donc, nous nous autodissoudrons peut-être le 3 juin, parce que le 2, il y a l'inauguration officielle. Donc, il pourrait encore se passer des choses. Donc, on s'est créé donc en janvier 2006. Ça rassemble des gens d'horizons assez variés, dont des gens de formation scientifique. Et donc, l'idée, c'est d'emmener les gens vers cette manifestation du 1er juin et surtout d'informer, de faire beaucoup d'informations sur qu'est-ce que c'est les nanotechnologies et pourquoi, nous, on pense qu'on n'a rien à y gagner dans cette histoire-là. Alors, en fait... Pour informer les gens, il y a les moyens classiques, les tracts, les affiches. On essaye d'en faire beaucoup sur Grenoble. Et on a fait toute une tournée de projection débat autour de deux films. Un sur les nanotechnologies et un plutôt sur les lanceurs d'alerte. Et donc, on a fait une tournée dans la France entière. Alors, pour vous donner un peu des villes comme Lyon, Chambéry, Marseille, Valence, Toulouse, même à l'international, à Lausanne ou à Milan. Et puis, dans des petites villes ou des petits villages dans d'autres régions comme l'Ardèche, le Tarn, la Loire, le Jura, les Hautes-Alpes, la Chartreuse et j'en oublie sûrement. Voilà, donc c'était une véritable campagne, je sais pas, d'éducation populaire peut-être, on peut dire, où toujours on s'est trouvé face à des salles très intéressées par ce sujet, très préoccupé, et on essaye de les informer, voilà.
Ouais, d'autant plus, ça me fait penser, tu dis très intéressé, parce que souvent c'est la première fois que vous leur en parlez, je suppose.
Effectivement, oui, souvent les gens, ils ont entendu ce terme vaguement à une émission de radio, ils l'ont peut-être vu dans les médias, mais sans avoir eu le temps d'approfondir, ni les moyens d'approfondir, et puis après, on essaye vraiment aussi d'être un contre-pouvoir par rapport à la propagande, en tout cas locale, du CEA et du milieu scientifique grenoblois, qui essaye de faire passer ces technologies pour civils, pour vraiment quelque chose qui va nous révolutionner nos vies et en bien, quoi. Donc on essaye de donner un autre son de cloche par rapport à ça.
Samuel, quand tu dis que le CEA est pilote du projet Minatec, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Concrètement, c'est le projet de Minatec a d'abord été imaginé par Jean Terme, qui est le directeur du commissariat à l'énergie atomique de Grenoble. C'est lui d'ailleurs qui s'en vante, hein, c'est lui qui a imaginé ce projet-là et qui ensuite a proposé ça aux collectivités locales qui évidemment se sont jetées dans ce projet-là, notamment Michel Destaux qui notamment est un ingénieur du CEA, un ancien ingénieur du CEA, mais aussi André Vallini et Didier Migaud qui tout de suite ont lancé les fonds à ça. Donc pilote du projet, c'est concrètement, c'est eux qui ont été décideurs sur ce projet-là. Concrètement, c'est eux qui vont décider des entreprises qui vont participer à ça, des choix de recherche. Et concrètement, ce sera aussi sur la zone du CEA, à côté du CEA.
Et par rapport à cette inauguration, donc il y a des événements un petit peu prévus
Oui, alors effectivement, on appelle à la manifestation le 1er juin, mais on organise aussi beaucoup de choses autour de ça, notamment avant. Dès le mardi 29, dès le mardi 30, pardon, juin, en fait, on propose des ateliers de réflexion sur différents thèmes comme la carte d'identité biométrique, la biométrie, le puçage des animaux ou encore l'enquête critique à la Bifurque à Grenoble, avec tous les gens qui seront venus d'un peu toute la France pour la manifestation et puis les Grenoblois. Ensuite, le lendemain soir, le mercredi soir, à 20h30, il y aura une grande réunion publique sur les nanotechnologies, avec peut-être quelqu'un de le président de ITC Group, qui est une ONG du Canada qui a lancé l'alerte sur ce thème-là il y a déjà un peu longtemps. Et puis, le 1er juin, c'est la manifestation, rendez-vous à 12h, place Félix Poula, et à 18h aussi pour un pique-nique à la Bastille.
Et peut-être tu peux dire un peu pourquoi la manifestation est convoquée par OGN et le 1er juin, alors que l'inauguration est le 2 juin.
Alors c'est qu'effectivement au moment où notre collectif s'est formé, donc en janvier, l'inauguration officielle était prévue pour le 1er juin. Donc nous, l'idée c'était, nous on fait une contre-inauguration en même temps. Et en fait, c'est, il me semble, dans le courant du mois de mai ou début mai que la nouvelle tout d'un coup est tombée que finalement l'inauguration officielle ce serait le 2 juin. Nous ça nous a un peu amusé parce qu'on n'a pas bien compris la raison et on ose espérer en tout cas que c'est par peur justement de notre contestation, et on a maintenu la date du 1er juin parce que histoire de dire que peut-être nous on dit ce qu'on fait et aussi parce que le 2 juin on sera toujours là de toute façon.
D'accord. Et là tu parlais de ITC Group. Vous avez connaissance d'autres groupes de gens qui luttent contre les nanos en particulier ou qui réfléchissent là-dessus ou...
Alors. Peut-être, je vais pas avoir une liste très précise, mais je pense que le réseau Sortir du Nucléaire a appelé aussi ses membres à la manifestation le 1er juin. On pourra peut-être reparler des raisons plus tard. Et puis après, en fait, il y a beaucoup de collectifs, on va dire militants ou de manière générale en lutte contre la société industrielle ou contre la société sécuritaire, contre la vidéosurveillance. Enfin voilà, des collectifs un peu partout que en fait les nanotechnologies intéressent directement. Peut-être on pourra en reparler aussi. Et donc ils vont venir manifester avec nous.
Eh bien, pour nous mettre dans l'ambiance nanotechnologique future, on va passer à un petit morceau de musique.
Un morceau de Calavera, qui s'appelle Comment ils font, et que vous pourrez retrouver sur la compilation Tiny Solium, la numéro 2.
Comment ils font pour qu'on s'appuie sur qu'un feu de paille? Comment ils font pour que tout devienne calme? Comment ils font ce bâtard d'état et storm moral? Comment ils font pour faire avaler leur moron à racaille? Toujours les mêmes qui skyent, en tôle, toujours les mêmes places sociales. Comment ils font pour que l'opinion publique soit si naïve face au balcon du journal? Comment ils flinguent? Comment ils calment? Comment ça sent la bavure dans tous les coins de bureau de Paname? Comment c'est beau, un marteau qui crame, mais les gens ici craignent trop les flammes. Moi je flippe surtout des flics en armes. Comment ils font pour reproduire toujours le même schéma mental? On fait monter la peur technique fatale, ça donne des côtes racistes, l'UMP Front National. Contrôle les tracts faciales, expulsion prison, les juger leur pouvoir glacial. Comment ils font pour que tout le monde trouve ça normal? Putain des poufs qui pètent des câbles, c'est vraiment une jeunesse anormale. Mais pourquoi les ghettos s'enflamment? Les indigènes tout ce qu'il faut, ils sont même habillés en Nike. Mais si l'on sait de mort, nous n'aime le crépitement du feu. Et si l'on sait l'or avec lequel ils achètent leur paix de Dieu. Mais si l'on sait de mort, nous n'aime le crépitement du feu. Et si l'on sait l'or avec lequel ils achètent leur paix de Dieu. Si dans cette mort, on aime le crépitement du feu. Et si on sait là, avec lequel il s'agit en paix de Dieu. Comment ils font pour toujours se poser en victime? Comment ils flippent pour leur vitrine? Leur monde de rat offre le choix entre le clan et la strychnine. Comment ils font pour qu'on s'exprime que par des mots? Mais quand ça sent le cramé en fusil, comment le pouvoir aime que rose des parts de skin? Comment ils font pour toujours faire passer les bouches pour les miskines? Comment ils font pour faire croire que les flics sont une solution à tout? Comment ils font pour faire croire que le progrès passe par le garde à vous? C'est dans le meilleur des mondes possibles. Ils veulent nous voir génétiquement sans voyous. Tout sera programmé sous surveillance. Huxley et Orwell ont bien vu ce qu'ils veulent faire, nous, des moutons ou des chiens de faïence avec des militaires partout. Comment ils font pour que les jeunes soient toujours vus comme de dangereux fous? Comment ils comprennent rien à rien? Les technocrates comme les athénotés, les parisiens. Comment la croissance, nous on s'en fout? Comment l'ordre s'en contrefou? J'ai rien à dire pour ma défense. Persiste à dire que Sarkozy est un dictateur en puissance. Que Chirac doit finir au trou. Qu'il n'y a pas de monnaie de droit de l'homme en France. Et que les mêmes prennent toujours les coups. Que Sarsen troll et Soweto. Sous sans différence avec ce que les banlieues sont aujourd'hui pour nous. Mais peut-être que le crépitement du feu nous fera y voir un peu moins flou.
chez l'ancêtre mort, nous même le crépitement du feu. Les sirens, c'est l'or avec lequel ils achètent leur paix de Dieu.
Le silence est mort, nous même le crépitement du feu.
Les sirens, c'est l'or avec lequel ils achètent leur paix de Dieu.
Le silence est mort, nous même le crépitement du feu.
Les sirens, c'est l'or avec lequel ils achètent leur paix de Dieu.
Ouais, alors on continue. Il y a une petite chose qu'on n'a pas précisée. Là, on a parlé de OGN comme d'opposition grenobloise aux nécrotechnologies. Et pourquoi nécrotechnologie et pas nanotechnologie ?
Alors bah déjà, il y a l'idée de faire un titre qui fait se poser des questions aux gens. Et nous, on pense vraiment que ces technologies-là, on a évoqué tout à l'heure que les applications principales, en tout cas dans l'immédiat, c'est militaire et sécuritaire, mais aussi tous les risques toxicologiques qui sont pas du tout encore étudiés, plus de manière globale la pollution, les conséquences, la société industrielle qu'elle continue à entretenir. Pour nous, tout ça, c'est porteur de mort, en fait, et vraiment... pas du tout de vie, quoi. Ça va pas du tout dans le sens de la vie, en tout cas pas la vie telle qu'on la conçoit. Et voilà pourquoi ça s'appelle nécrotechnologie.
Ok. Peut-être on peut rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On parle d'opposition, tout ça. Est-ce qu'on pourrait expliquer un peu pourquoi là, t'en as parlé un petit peu, là, Lucas, mais approfondir un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit vraiment derrière ces nanotechnologies ? Parce qu'on nous les présente comme des choses vachement chouettes, quand même. Ça permet des trucs fabuleux, notamment au niveau de la médecine, au niveau de plein de produits industriels qui font rêver. Enfin bon, moi ça me fait pas vraiment rêver, mais bon. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ?
Alors, par rapport aux applications négatives des nanotechnologies, on peut parler notamment des applications policières. Notamment, une des choses dont on entend de plus en plus parler, c'est les micropuces sous-cutanées. C'est quelque chose qui existe déjà aux États-Unis, en Espagne, en Hollande, et bientôt en France. Ce sont des puces de la taille d'un grain de riz qui permettent d'identifier les personnes à distance. Et ça contient les données identitaires, et on peut être localisé aussi par GPS. Concrètement, aux États-Unis, il y a une société qui s'appelle VeriChip, qui commercialise des micropuces. Pour par exemple les parents qui veulent pucer leurs enfants pour savoir où ils sont où ils sont en permanence, pour des entreprises qui pucent leurs employés, ça leur permet d'avoir une carte d'identification cohérente des entreprises. Et maintenant en Espagne par exemple dans une boîte de nuit, certains consommateurs se font pucer pour rentrer plus facilement dans la boîte de nuit, etc.
Mais alors souvent ce qu'on entend quand on parle de ces choses-là, les gens nous disent oui mais ça c'est pas les nanotechnologies, c'est des micropuces, c'est pas des nanopuces. Alors
mais tout à fait, c'est pas la taille du milliardième de mètre, c'est pas la taille du nanomètre, c'est une puce comme la puce VeriChip, elle fait quelques millimètres. Effectivement actuellement elles font encore quelques millimètres, dans quelques temps elles seront quasiment invisibles à l'œil nu, quoi. Donc actuellement c'est des micro-technologies, on est d'accord, mais ça ne change rien à la question du problème qui est le flicage de la population.
Aussi, je peux rajouter une petite précision là-dessus, c'est que justement la recherche sur les nanotechnologies vont permettre d'abaisser énormément le coût de fabrication de ces puces et donc d'en mettre absolument partout. D'une part, de les miniaturiser de manière à les mettre jusqu'à dans de l'encre ou dans le corps même des objets, dans du verre, dans les fibres de vêtements, etc. Et aussi de les faire pas cher, donc de pouvoir en mettre dans tous les objets, donc de permettre une traçabilité totale, donc de donner un outil sécuritaire absolument merveilleux à n'importe quel pouvoir, quel qu'il soit. Et c'est ça qui nous fait extrêmement peur, en fait.
Mmh. Ouais, imaginez la résistance en 39-45, si tout le monde était pucé. On imagine mal comment il y aurait pu y avoir de la résistance en France à cette époque-là, quoi.
Bonsoir, donc Xavier du collectif Stop EPR Grenoble. Je voulais réagir par rapport à ce qu'on dit actuellement sur nanotechnologie, pas nanotechnologie. Je voulais réagir par rapport au nom nécrotechnologie,
qui me semble assez bien choisi vis-à-vis de ça. Dans la mesure où nous, par exemple, ce qui fait qu'on se retrouve dans les préoccupations d'OGN, c'est qu'il y a une convergence technologique qui correspond à un projet de société global. Il ne s'agit pas du tout d'un complot, mais d'une idée du progrès humain comme progrès technique, Et en fait, je pense que parler de nécrotechnologie dans ce sens-là, c'est peut-être mieux venu que de parler de nanotechnologie, puisque, enfin, moi, il me semble, moi, je me suis pas penché, et Samuel pourra me démentir peut-être, je me suis pas penché en détail sur le sujet des nanotechnologies, mais je pense que c'est plus une étiquette globalisante que quelque chose de peut-être très exact d'un point de vue scientifique, et que c'est plus pour faire un résumé de tout un tas de concepts et de potentialités diverses qui en elles-mêmes peuvent être effrayantes.
Tout à fait. D'ailleurs, aux États-Unis, on utilise de moins en moins le terme nanotechnologie pour lui choisir le terme de technologie convergente, pour montrer justement qu'à travers les nanotechnologies, c'est en fait, ça regroupe toutes les technologies en termes de biologie, en termes de biotechnologie, en termes de structure des matériaux, de physique, d'informatique, auxquels on applique les outils nanotechnologiques pour miniaturiser tout ça, pour faire tisser des passerelles, utiliser la biotechnologie et l'informatique pour créer notamment des puces sous-cutanées, etc.
Ok. Et moi, ça me fait penser à quelque chose, tout ça, c'est que quand on en parle dans les termes dont vous en parlez là, ça semble assez effrayant. Enfin, on se dit quand même que c'est bizarre qu'on puisse accepter des choses comme ça, parce que là, ce que tu disais, c'est qu'il y a des choses qui sont déjà en fonctionnement. Il y a déjà des employés qui acceptent d'être pucés. Il y a déjà des gens, comme tu disais, qui rentrent en boîte en Espagne avec une puce dans le bras. Et donc, ça veut dire que c'est des choses qui viennent progressivement, petit à petit. Et en fait, ça me fait penser qu'il y a tout un travail d'acceptabilité derrière tout ça, de comment on fait que ça vient petit à petit et que la population accepte finalement et ne se pose pas vraiment la question de vers où on va et que ça rentre dans notre quotidien, ça rentre dans nos vies. Et ça me fait penser à tout ce qu'on fait par rapport à l'éducation des enfants sur ce sujet-là.
Alors justement, si on parle d'acceptabilité, les multinationales de l'électronique et l'État réfléchissent beaucoup à comment faire accepter ces technologies de surveillance et de contrôle à la population. En juillet 2004, il y a un rapport qui est sorti par le GIGSEL. Le GIGSEL, c'est le lobby de l'électronique, dont est membre le commissaire à l'énergie atomique de Grenoble. C'est une cinquantaine d'industries électroniques qui sont regroupées. Et elles ont pondu un rapport qui s'appelle le Livre Bleu. C'est un rapport destiné à l'État et qui parle notamment de l'acceptabilité des technologies de surveillance en électronique pour la population. Je vous cite juste un petit extrait de ce rapport qui fait quelques lignes. Et ils disent « Pour faire accepter la biométrie, les nanocaméras et les contrôles, il faudra recourir à la persuasion et à la réglementation en démontrant l'apport de ces technologies à la sérénité de la population et en minimisant la gêne occasionnée. » Et s'ensuit tout un tas de propositions très concrètes, notamment éducation de l'école maternelle, mettre en place des bornes biométriques à l'entrée des cantines scolaires, mettre en place la traçabilité des enfants par rapport aux parents sur la sécurité, et notamment aussi développer les applications biométriques de contrôle sur les jeux vidéo, sur les services cardless quand on va dans une banque, etc. Commencer par le côté ludique et le côté enfant, quoi, pour faire accepter finalement le contrôle social généralisé.
Ouais, ça me fait penser à l'exposition qu'il y a eu pendant l'hiver à la Villette, à la Cité des Sciences à Paris, qui était sur la biométrie. Et on en a parlé dans une émission, là, il y a deux mois peut-être, où on parlait de la biométrie, on a parlé de cette exposition qui était une exposition complètement dirigée vers les enfants. En fait, c'était sous une forme très ludique. Et les enfants entraient dans l'exposition et avaient la possibilité d'enregistrer leurs données biométriques sur une borne. Bon, évidemment, ça servait que dans cette expo-là. Mais ça veut dire que pendant tout le trajet de l'exposition, ils pouvaient se faire reconnaître une fois qu'ils avaient été reconnus à l'entrée par, mettons, la forme de la paume de la main. Et ils passaient plus loin à un autre jeu, ils passaient leur paume et on les reconnaissait. Et ça, c'est toutes des techniques qui permettent justement de faire en sorte que les enfants très jeunes, ils se sentent, ils prennent ça comme quelque chose de normal et qu'ils se posent pas la question le jour où on leur met une puce dans le bras, ça semblera évident. Moi, je me dis que je suis née, on m'a fait une carte d'identité, je me suis pas demandé en fait si c'était bien ou pas d'avoir une carte d'identité, ça m'a paru normal. Et je me dis que les enfants des générations à venir, on leur mettra une puce sous le doigt ou sur le bras ou je sais pas où, et ça leur semblera normal de la même façon que moi j'ai une carte d'identité.
L'autre vecteur d'éducation de la population, cette fois-ci des adultes, c'est tout le discours sécuritaire qui se développe depuis une dizaine d'années sur le terrorisme, sur la délinquance, etc. Il suffit de voir comment se passent les JT d'information et qui habitue la population à avoir peur et à se dire je veux plus de sécurité. Et c'est vrai que les nanotechnologies, c'est des outils incroyables en termes de sécurité. Nanocaméras, les micropuçages, c'est des choses qui permettent un niveau de sécurité très très fort, mais au terme d'une perte de liberté incroyable qui est sans précédent, à mon avis, dans la société française.
Je voudrais ajouter quelque chose, effectivement, sur l'enjeu de l'éducation des enfants, dans le sens où c'est quelque chose qu'on constate aussi dans le domaine du nucléaire, puisque faire entrer dans le milieu scolaire des arguments de manière équilibrée entre pour et contre le nucléaire, ou simplement de considérer aussi bien les inconvénients que les avantages du nucléaire. Ça a été, ça continue d'être un combat déséquilibré, on va dire, entre ce qu'on peut appeler entre guillemets un lobby nucléaire, donc de manière plus factuelle, l'assemblée des industriels du secteur, des pouvoirs publics, etc. Et de l'autre côté, les quelques groupes, dont par exemple le réseau Sortir du Nucléaire, qui travaillent sur la contradiction des arguments de ce lobby. Et par exemple, à l'heure actuelle, il y a une officine du nom de Junium, je ne sais pas comment on dit, enfin en latin ça fait sérieux, qui en fait est une émanation d'EDF et fait de la propagande, on va dire ça comme ça, dans les écoles. Et ça reste, on est vraiment sur ce même enjeu-là, faire passer auprès des enfants le nucléaire comme quelque chose de bien et de sans danger.
En son temps, EDF également avait a tourné pendant des années et des années dans les écoles avec des cars afin d'informer du moins sur les bienfaits du nucléaire et pendant tout le développement du programme nucléaire. Donc maintenant, c'était assez, mais il y avait un budget très très important. Donc est-ce que c'était de l'information ou du moins un message d'acceptation du risque sur le nucléaire en tant que citoyen? Est-ce qu'on peut accepter ce risque-là pour des générations et des générations? Et voilà, on peut se poser la question dans les écoles, est-ce que c'était pas plus un bourrage de crâne qu'une information pertinente, sachant que c'était mise en place pas par l'État, mais par le promoteur principal qui était EDF, du moins de ce projet de production électrique à base nucléaire.
Peut-être on va faire une petite pause et on va passer à un montage qui a été fait à partir d'extraits du nanodialogue. Alors le nanodialogue, c'est une vidéo à la base, hein, mais le son est assez intéressant pour qu'on n'ait pas besoin des images. Moi j'appelle ça de la propagande pour les nanotechnologies. C'est expliqué dans l'intro qui fait ça, vous allez voir. Et ça a été enregistré lors de l'émission de Télé Grenoble qui a eu lieu il y a une semaine sur les nanotechnologies. Et vous allez voir, c'est assez rigolo.
Je vous propose un très court extrait de Nanodialogue. C'est une expo itinérante qui est réalisée entre autres par le CCSTI de Grenoble, c'est-à-dire le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle, qui va bientôt ouvrir à la Casemate, hein, sur les quais. Il s'agit d'un programme européen de communication sur les nanotechnologies. On regarde cette première partie.
L'utilisation des nanotechnologies porte déjà ses fruits. Quelle quantité de musique peut-on enregistrer sur un seul CD? Un peu plus d'une heure? Bien davantage. Les CD faits de nouveaux matériaux peuvent contenir jusqu'à 20 heures de musique. Et encore, grâce aux matériaux nanotechnologiques, finit les tâches sur les vêtements, les vitres et les éviers. Sur les superficies nanostructurées, en effet, les liquides n'adhèrent plus, mais rebondissent en emportant avec eux la saleté. Des rayures sur la voiture? Les tôles en nanostructures sont insensibles à tout type de rayures. Trop de soleil vous gêne? C'est terminé. Il existe des verres dont la transparence est réglable électriquement. Plus importantes encore sont les applications dans le domaine médical. On pourra réaliser des prothèses osseuses complètement biocompatibles. Imaginez, plus aucun rejet après une greffe. Dans un futur très proche pourtant, les applications des nanotechnologies s'étendront très largement, même dans le domaine militaire. Des projectiles aux équipements, la propriété des nanomatériaux pourront améliorer l'efficacité des armes, faciliteront le repérage et la neutralisation des menaces chimiques et biologiques. La plupart des applications sont bien entendu top secret, mais nous savons qu'aujourd'hui, les nanoparticules sont déjà utilisées dans certains types de projectiles. Leur grande réactivité en augmente la puissance explosive.
Comment répondre aux craintes ou aux simples inquiétudes liées au développement des nanotechnologies? Une méthode consiste essentiellement à assimiler ces peurs, ça s'est vu sur d'autres sujets, à des fantasmes. Et je crois donc de fait à les négliger, ou bien encore, semble-t-il, à utiliser une certaine langue de bois, et pardonnez-moi pour ceux qui ont initié nanodialogue, mais c'est en fait ce que j'ai constaté, et je voudrais vous en montrer la preuve tout de suite.
La capacité d'intervenir à une échelle aussi réduite nous permet de créer de nouveaux matériaux, en contrôlant de manière très précise leurs propriétés. C'est justement parce que nous sommes dans un monde nouveau, fait de lois différentes, que les possibilités d'innovation sont sans limite. Combien d'entre vous ont-ils tremblé devant les films de science-fiction où l'on voyait les scientifiques modifier l'ADN et donner vie à des créatures surnaturelles? Ou encore quand des essaims de nanoparticules se reproduisaient et détruisaient toute forme de vie sur leur passage? C'est impressionnant, non? Ce n'est là que science-fiction. Dans la réalité, les nanotechnologies sont des instruments pour obtenir des produits potentiellement meilleurs, plus efficaces et écologiques. Comme pour toutes les nouvelles technologies, il existe des risques spécifiques, dont certains sont difficiles à prévoir.
Là encore, je vous propose un dernier extrait donc, de Nanodialogue, des images et un commentaire qui sont censés présenter donc, ces problématiques au grand public. On les regarde.
Il est certain que les nanotechnologies changeront notre vie dans un monde proche et lointain et qu'elles nous guideront vers des réalités fascinantes, fantastiques et pourquoi pas aussi périlleuses. Les propriétés qui rendent ce nanomonde aussi excitant invitent à la prudence. La préoccupation principale est qu'à cause des dimensions réduites, les particules nanométriques peuvent se répandre librement dans l'atmosphère ou contaminer les environnements aquatiques. Une fois libérées dans l'environnement, elles pourraient pénétrer et s'accumuler dans des organismes vivants et interagir avec les cellules et l'ADN. Et puis, peut-on faire quelque chose pour éviter que le développement de la recherche sur les nanotechnologies creuse davantage l'écart technologique entre les pays pauvres et les pays riches? Est-il possible que derrière les merveilleuses perspectives que les nanotechnologies ouvrent devant nous, se cachent en fait des problèmes et des risques que nous ne sommes pas encore en mesure de quantifier? La recherche sur les nanotechnologies aurait-elle besoin d'être contrôlée? Par qui? Les gouvernements? Les scientifiques? Les consommateurs? D'aucuns craignent des scénarios catastrophes et visionnaires. Et toi, qu'en penses-tu?
Je crois que ça se passe de commentaires avec tout ce qu'on a dit avant, ça illustre assez bien le seul chose qu'on trouve dans l'agglomération qui présente les nanotechnologies sous forme de vidéo, c'est ça. Il y a donc Pierrick qui nous a rejoint, qui a fait un mémoire de sociologie sur le traitement médiatique sur le sujet de Minatech fait par le Dauphiné Libéré. Oui, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais toi tu vas le réexpliquer plus clairement.
Oui, j'ai fait un mémoire de sociologie en 2003 sur le traitement du Dauphiné Libéré, le traitement du sujet Minatech par le Dauphiné Libéré. Donc j'ai analysé tous les articles qui avaient été faits sur Minatech entre 99 et 2003. Il y en avait à peu près 30 ou 35. J'ai fait un simple constat du suivisme institutionnel du Dauphiné Libéré, de son ton qui était plus que complaisant, et puis des articles chargés de citations. Je voudrais dire quasiment la moitié des articles étaient chargés à plus de 70% de citations des institutionnels, que ce soit Valigny, Fiorazzo ou autre. Donc aucun traitement en fait critique sur la question. J'ai essayé d'imputer ça à la fois à la montée en puissance de la société de communication, c'est-à-dire que tout organisme, toute institution aujourd'hui essaie de contrôler son message et ne lâche absolument rien, si ce n'est à travers justement ces services de communication. Et puis mouvement parallèle, c'est l'évolution des conditions de travail et des conditions de c'est l'évolution de la presse en général, de la presse quotidienne locale en particulier, qui tend à prendre des postures de plus en plus conventionnelles, surtout à ne choquer aucun bord politique du fait de la baisse de ses ventes, et surtout ne pas choquer les annonceurs, ne pas choquer les institutionnels, et ne pas toucher aucune sensibilité politique, essayer de rester le plus consensuel possible, le plus factuel possible, bien que ce mot ne veuille pas dire neutre, quoi. Voilà.
Et par exemple, un mémoire comme ça, ça a été... est-ce que le Dauphiné Libéré a eu... Tu leur as envoyé un exemplaire de ton mémoire, par exemple?
Ouais, je leur ai envoyé un exemplaire. J'ai pas eu vraiment de retour. Je pense qu'ils ont pas été forcément très contents du bilan, bien que... J'ai pas attaqué qui que ce soit. J'ai juste regardé ce qui s'était fait. Il y avait un journaliste en particulier qui est en charge principalement de la rubrique techno-économique, avec qui j'ai pu faire une interview officieuse que je n'ai pas vraiment reportée dans mon mémoire puisqu'il m'a pas autorisé à le faire. lui, il m'expliquait principalement qu'il ne pouvait pas avoir un regard critique sur les choses du fait de ses conditions de travail. C'est un argument qui est assez recevable, même si on ne peut pas non plus tout expliquer à travers ça. Il est en charge de sa rubrique, il est dépassé un peu par son boulot. D'où la facilité à suivre le discours prémâché qu'on te donne à travers les services de communication. Voilà.
Alors moi, j'ai une dernière question. Est-ce que tu penses que il y a des moments, des ordres de censure, on peut appeler ça comme ça, de la part de, par exemple, de la mairie à Grenoble ou de la part d'institutions publiques sur des médias, comme le Dauphiné Libéré?
Alors le Dauphiné Libéré, c'est effectivement un média local. La particularité des médias locaux, c'est que les journalistes sont très proches aussi des institutionnels, des responsables d'entreprise ou des responsables du CEA notamment. Je pense qu'il y a une façon, les critiques se font très vite savoir. Donc certainement il y a des ordres de censure avérés. Je peux pas en citer quoi. Par contre, effectivement, j'ai pas dit pourquoi j'ai fait ce mémoire. C'était une petite censure. Justement, j'étais correspondant local au Dauphiné Libéré. Je connaissais rien aux nanotechnologies. Et on m'avait envoyé faire un reportage au CRDP sur la présentation des nanotechnologies par le CEA. Ça a viré à la promotion de Minatech. J'ai fait mon article. Il y avait une intervention de membres de pièces et main d'œuvre dans la salle. J'ai mentionné cette intervention en expliquant dans la fin d'article, en donnant deux petits arguments qui avaient été donnés par les membres de PMO. Il s'avère que la fin de mon article a été squeezée en fait par le secrétaire de rédaction. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est pour ça que je suis allé un petit peu plus loin. Donc on peut se dire que s'il n'y a pas censure avérée, il y a au moins autocensure de la part des médias quoi.
Et ça date de quelques mois déjà à peu près, ce
que je te raconte là, ça date de 2002, 2001, 2002 quoi.
D'accord. Ouais. Parce que j'ai l'impression peut-être que maintenant il y a une contestation qui monte, ils peuvent plus se contenter de faire une propagande simple de c'est bien, mais ils commencent à organiser des espèces de pseudo débats ou d'émissions où soi-disant il y aurait des débats contradictoires à ce sujet ou des espèces de forums où on pourrait s'exprimer en faisant croire à une présence d'un débat ou de démocratie à ce sujet-là, et que du coup qui revoient un peu leur stratégie de propagande.
Je pense que du fait de la virulence de la contestation à Grenoble, qui a servi un peu, comme dirait beaucoup, de lanceur d'alerte, les médias ont été obligés de se poser un peu des questions. Et pour certains, ils se les posent vraiment. Pour d'autres, ils font semblant de se les poser, je pense. Il n'y a pas un article maintenant sur les nanotechnologies qui mentionne pas les risques, qui ne parle pas des risques éventuels. Je pense que c'est un grand mérite à ceux qui ont beurlé un petit peu pour que ça se sache. Maintenant, est-ce que c'est des simili de réflexion? J'en sais rien. Le problème, c'est que beaucoup de médias, ou alors il y a en ce moment une journaliste parisienne qui essaie d'organiser un cycle de conférences qui s'appelle Vivagora. Elle organise ça à Paris, elle organise aussi un cycle de conférences à Grenoble qui s'appelle NanoVive. Cette journaliste a vraiment des convictions, elle se pose vraiment des questions, elle a un regard critique sur les choses. Cela dit, voilà, ces débats sont aussi subventionnés et accueillis par le Conseil Général, qui est l'un des premiers pourvoyeurs de fonds dans le projet Minatech et Nanotech 300 et tout y quanti, quoi.
Oui, juste pour préciser, ce dont tu parles là, c'est quelque chose qui a lieu, enfin le premier a lieu mardi prochain, là, le 23 à Grenoble. Et effectivement, c'est un projet qui a coûté 23 000 euros, il me semble, je ne sais plus, enfin bon, des sommes faramineuses. C'est tout un cycle qui va avoir lieu pendant 6 mois, en fait. Il va y avoir plusieurs, chaque mois, un atelier discussion avec cette personne-là et les citoyens de Grenoble. Mais effectivement, c'est... moi, je pense que c'est de du pseudo-débat. Et puis, comme on l'entend répéter et on peut le redire, qu'est-ce qu'on peut appeler débat à partir du moment où les décisions sont déjà prises et où Minatech ouvre dans moins de 15 jours? Tic-tac, tic-tac.
Juste un petit truc, ouais, on va pas, enfin, moi je doute pas du regard critique de cette personne. Par contre, je sais pas si elle-même ne doute pas de son indépendance, en fait, tout simplement. Et puis, ce que t'as dit, les décisions sont déjà prises, certes, mais je pense que tout n'est pas fait, quoi. C'est le début de Minatech, c'est le début des recherches et des découvertes qui vont être faites là-bas. Je pense qu'il faut maintenir une certaine pression et puis ne pas refuser non plus forcément le débat public parce que il faut qu'il ait lieu et ça va évoluer. Quand bien même tout a été décidé. Effectivement, partant de ce constat-là, on peut se révolter, mais je pense aussi qu'il va falloir, de toute façon, de la part de toutes les parties, s'impliquer un petit peu, écouter les uns et les autres, quoi.
Puisqu'on parle de traitement médiatique par rapport aux nanotechnologies, je pense qu'il faudrait quand même mentionner le groupe Pièces et Main-d'œuvre, qui depuis maintenant 4 ans, je crois, réalise des enquêtes sur le sujet des nouvelles technologies, de la biométrie, des nanotechnologies, du rapport entre les hommes politiques et les industriels, etc., sur le cas de Grenoble, et qui fait un gros travail d'information indépendant et qui a contribué à mettre ce sujet-là sur la table et à créer, à susciter notamment une contestation.
Oui, je suppose que, enfin, c'est pas pour rien qu'il se passe ce qui se passe en ce moment, quoi. C'est parce que ça fait des années que la contestation monte, en fait. Elle est pas du tout relayée. Là, elle est, comme l'a dit le Dauphiné, montée en puissance, tout à fait. Mais ça vient de déjà plusieurs années en arrière, quoi, cette critique-là.
Et je voudrais faire un petit parallèle sur ce dont on parle, à savoir les débats publics, entre guillemets, qui se déroulent après les décisions. Juste pour revenir sur le débat public organisé par la Commission nationale ad hoc par rapport à la construction d'un nouveau réacteur nucléaire dit EPR qui va être construit dans la Manche à Flamanville. Le débat public a commencé le 3 novembre 2005. Or, il se trouve que le 24 octobre, soit à peu près 10 jours avant, Dominique de Villepin a dit texto « Au vu des conclusions du débat en cours, l'EPR va être construit à Flamanville ». Donc il y avait déjà des conclusions d'un débat en cours qui n'était pas commencé, donc voilà, c'est pour illustrer.
Ben, on va peut-être passer un peu de musique. Alors il y a un nouveau groupe là qui s'est monté sur Grenoble qui s'appelle SinCEA et qui fait des reprises. Ben, vous allez voir.
On vous souhaite tout le bonheur du monde. Pour aujourd'hui et pour demain, de nouvelles armes, de nouvelles bombes, votre quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que la peuple vous tende la main, de pouvoir maîtriser les ondes, et contrôler tous les humains. Je sais pas quelle puce on vous mettra, sous l'abdomen ou bien sous le bras, sur les produits et sur votre chat. Mais ne craignez rien pour votre liberté. Elle ne sera pas mise en danger si vous n'avez rien à vous reprocher. Puisque pour votre sécurité, il faudra tout sacrifier. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui et pour demain. Des nouvelles armes, des nouvelles bombes, révolutionnant votre quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Avec une start-up vous tend la main, de pouvoir maîtriser les ondes et contrôler tous les humains.
Tout un monde s'offre devant vous, beaucoup de gadgets plus ou moins fous, sûrement plein de puces au rendez-vous.
Ça va complètement changer vos vies,
anéantir l'autonomie, renforcer la lobnologie.
et on dira aux opposants. Le problème est intéressant, mais faut privilégier la science. C'est important pour la croissance. Faire la baisse et vos consciences. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui et pour demain. Des nouvelles armes, des nouvelles bombes révolutionnant votre quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que les startups vous tendent la main de pouvoir maîtriser les ondes et contrôler tous les humains. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Le bonheur du monde, on vous souhaite tout le bonheur du monde.
Maintenant à un débat plus de fond et pour commencer, j'aimerais bien qu'on parle de questions vraiment de société et en particulier en général quand on présente toutes ces nouvelles technologies qui dont on sait qu'elles présentent des risques, on utilise des arguments qui parlent beaucoup à tout le monde et notamment c'est du travail et de la médecine. Donc Sam, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire là-dessus ?
Oui, bah évidemment, Minatech, on nous présente ça comme un projet qui va créer du travail à Grenoble, donc c'est formidable. Selon l'équation qu'on nous présente à la même sauce depuis déjà plus de 20 ans, l'innovation technologique, ça crée de la croissance économique qui crée à son tour de l'emploi. Et depuis 20 ans, on a une société de chômage et de précarité qui fait l'inverse de cette équation. Les exemples grenoblois, c'est Schneider et ST Microelectronics, deux entreprises qui se lancent dans l'innovation technologique autour de Minatech, des nanotechnologies, et qui dans le même temps délocalisent en Malaisie pour Schneider ou licencient à tour de bras pour ST Microelectronics. Donc cette réflexion sur le travail, c'est vraiment de la propagande qui masque une crise sociale très profonde de la société. Il y a quand même plus de 25% des gens qui consomment des anxiolytiques, des antidépresseurs ou des somnifères en France, et on est une société de chômage et de précarité. La deuxième chose, c'est que quand on parle de travail, on parle jamais de quel travail. On parle jamais des conséquences sociales, des conséquences écologiques. Nous, on veut poser cette question du travail. Quel travail on vit ? Quel travail on veut ? Quels sont nos besoins et quelles sont les manières d'y répondre ?
Et juste pour en ce qui concerne la médecine, donc on parle souvent des nanotechnologies et c'est vrai que certaines de leurs applications, c'est ça, c'est des microchirurgiens qu'on pourrait mettre dans le corps pour aller déboucher une valve du cœur ou pour comme assistance d'organes qui sont déficients, donc qui resteraient tout le temps, ou même pour faire remarcher des gens qui sont handicapés. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à répondre que on préfère peut-être
En fait, la question de la médecine, c'est vraiment l'argument ultime qu'on nous met tout le temps sur la table, en disant, voilà, grâce à Minatech, on va guérir les cancers, on va faire des nanomissiles qui tueront les tumeurs cancéreuses dès leur apparition, ou des nanocapteurs qui permettront de savoir en temps réel si on a un cancer ou pas. Mais cette réflexion-là... Alors puis la deuxième chose, c'est qu'on nous dit, mais pour avoir cette médecine-là, il faut qu'on fasse du militaire, des recherches militaires, des recherches industrielles, et c'est grâce à ça qu'on aura des luttes contre le cancer, qu'on aura plus de médecine. En fait, cette réflexion-là, elle tient pas la route. Déjà, parce qu'on pourrait dire, si vraiment Minatech, c'est pour le bien commun, c'est pour la médecine, eh ben, on n'a qu'à faire que de la médecine à Minatech. On n'a qu'à pas faire du militaire, pas d'industriel. Ça, évidemment, personne veut ça. Enfin, ça ferait pleurer Michel Alliot-Marie, qui souhaite avant tout développer l'industrie militaire, et notamment faire en sorte que la France continue à être le deuxième exportateur mondial d'armement, grâce notamment aux innovations nanotechnologiques. La deuxième chose, si on réfléchit à ça, c'est de dire, bah très bien, si on veut développer la médecine, si on veut qu'il y ait moins de cancers, eh ben on va commencer par enlever le benzène de nos industries, le chlore de nos robinets, l'amiante de nos constructions, les rejets chimiques et radioactifs dans les rivières, la pollution de l'air par les automobiles, etc. Mais ça, non, on n'en parle pas trop, ça, par contre. On nous dit, il faut développer la nanotechnologie pour lutter contre la médecine, mais on ne dit pas, il faut rentrer dans une société de décroissance, il faut lutter contre la pollution automobile. Ce discours-là, on n'entend pas, par contre.
Ouais, moi, ce que ça me fait penser, c'est que...
j'ai l'impression, en règle générale, qu'on vit dans une société qui fonctionne sur le principe de guérison et pas du tout de prévention. Et la médecine occidentale, c'est typiquement ça. Hein, on guérit, on ne prévient pas la maladie. Et tout le fonctionnement du capitalisme, c'est ça aussi, quoi. On crée un problème et on crée des nouvelles technologies pour régler ce problème. Mais on va pas essayer de se poser la question de pourquoi il y a un problème qui est apparu.
Et d'ailleurs, je veux juste faire remarquer que c'est exactement la même chose dans le domaine sécuritaire, puisque toutes les politiques sécuritaires, depuis un certain nombre d'années, consistent à renforcer les dispositifs policiers de surveillance, avec encore une fois tout le système de caméras de surveillance en ville, toutes les études existantes sur le sujet ont prouvé que ça n'avait pas d'incidence significative sur la criminalité. Donc là, on est encore dans la logique de soi-disant guérir plutôt que prévenir. Ça coûte beaucoup plus cher, ça permet à pas mal d'intérêts privés de faire des bénéfices. Et ça nous permet de rejoindre en plus des implications sécuritaires, de la biométrie, des caméras poussières, etc., permises par les nanotechnologies.
Ouais, puis alors juste un point pour rajouter là-dessus, c'est que quand on dit qu'on veut faire de la prévention, parce que dans ce domaine-là, il y a un rapport récent qui veut faire de la prévention et qui veut détecter la délinquance très très tôt. Ça, c'est de la prévention, de dire que il y a des gens qui naissent et ils sont délinquants quoi déjà, et ça c'est pas de chance, hein, mais il faut vraiment faire attention à ces gens-là. Et ça c'est un rapport qui est assez grave et qui est sur la détection de la délinquance juvénile et qui veut observer les comportements des tout petits enfants, observer à quel point ils refusent d'obéir aux ordres, pour dire c'est des futurs délinquants, et à ce moment-là on suit les familles, on suit l'enfant,
et on pourra vendre tout un tas de médicaments, peut-être des nanotechnologies aussi pour opérer les enfants délinquants dès l'âge de 36 mois, ainsi que le sous-entend l'INSERM, qui est l'organisme qui a réalisé l'étude dont tu parles.
Et il paraît d'ailleurs que dans ce rapport, on apprend que les auditeurs et auditrices de Radio Kaléidoscope ont des penchants délinquants, et il faudrait peut-être les surveiller aussi. Hein.
Donc, pour rebondir là-dessus, moi je voudrais dire que les nanos c'est génial, parce que ça pourra guérir les cancers que ça va nous donner. Parce que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les nanoparticules, elles sont tellement petites qu'elles peuvent se répandre partout, et notamment c'est le... Fulgène. C'est donc une nouvelle molécule de carbone qui a été découverte, et on a bien remarqué que c'était pas très bon pour la santé. Donc au niveau de l'écologie, je voudrais savoir un peu quelles sont les incidences des nanotechnologies.
Alors déjà, juste t'as dit que le fulgène, ça avait été découvert, justement, c'est une molécule qui a été inventée. Donc c'est justement la particularité des nanotechnologies, c'est que on ne se contente pas de découvrir des nouvelles choses, on les fabrique maintenant atome par atome, comme un Lego, comme disait Samuel. Et donc du coup, ça donne des molécules qui n'existent pas dans la nature, donc auxquels notre corps est absolument pas habitué, quoi. Et en plus, qui ont une taille minuscule, de la taille même encore plus petite que les virus, ça veut dire que c'est quasiment impossible de les confiner, de les filtrer. C'est infiniment plus petit qu'une bactérie ou qu'un microbe. Au niveau de l'écologie, c'est vrai que c'est un des autres arguments qu'on nous dit. On nous dit les nanotechnologies, ça va permettre d'être plus efficace, d'économiser l'énergie, de créer donc des nouveaux matériaux, et donc d'avancer vers la résolution de la crise écologique actuelle. Alors déjà, il y a ce problème des nanoparticules qui n'est pas du tout effectivement étudié. Donc c'est la toxicologie de ces particules auxquelles personne ne s'intéresse pour l'instant. C'est une première chose. Ensuite, je voudrais faire un parallèle avec l'industrie informatique où en fait, il y a eu une espèce de mythe à un moment dans les années 80, avec l'apparition de la micro-informatique. On disait, avec l'ordinateur, maintenant, on va utiliser beaucoup moins de papier. Donc ça va vachement sauver les forêts parce que tout va se faire par écran, sur des câbles, de manière virtuelle, et donc on utilise beaucoup moins de papier. Je pense que tous les utilisateurs d'ordinateurs savent très bien qu'un ordinateur, ça fait pas utiliser moins de papier, voire même plus, hein, quand on imprime des emails pour rien. Enfin bref, c'est pas ça qui nous a fait sortir du gâchis finalement. Et donc le fait de créer tous ces nouveaux gadgets, ces nano-gadgets, donc des écrans plats enroulables, des iPods, des iPalm, je sais même pas les noms de ces nouveaux gadgets là, puisque je les utilise pas, mais je sais qu'il y en a toute une myriade qui pour les produire nécessite des industries extrêmement polluantes et gourmandes en eau et en produits. produits chimiques, hein, notamment ST Microelectronics dans la vallée du Grésivaudan qui a besoin de millions de mètres cubes d'eau par an pour fonctionner et qui stocke des produits extrêmement dangereux. Je me souviens plus les noms, mais c'est des choses quasiment militaires en fait. Voilà, donc cette industrie de l'électronique extrêmement polluante. Et après, où ils finissent ces produits? Et ben pareil, ils finissent en Chine. On veut surtout pas les avoir sous nos yeux, hein, ces poubelles électroniques. Mais j'ai vu des reportages, notamment en Chine, des villages entiers qui retraitent, qui essayent de récupérer les métaux qu'il y a dans ces gadgets. Et donc c'est des scènes absolument cauchemardesques, quoi, de voir toutes ces fumées noires et ces produits toxiques, voilà, accumulés loin de chez nous en fait. Donc c'est un peu l'idée de, ça rejoint ce qu'avait dit Samuel sur se poser un peu les vraies questions, pas se dire qu'on va faire les économies d'énergie. À mon avis, on peut les faire autrement, en limitant le gaspillage, en limitant la voiture, les gâchis d'électricité. La meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et donc, c'est pas les nanotechnologies qui vont nous faire, à mon avis, utiliser moins d'énergie et de produits toxiques.
Donc, je pense qu'on peut maintenant donner la parole à nos deux invités du réseau Stop EPR. Donc, est-ce que déjà vous pouvez nous présenter un peu
Alors, le collectif Stop EPR grenoblois est un tout petit collectif très récent qui s'est constitué autour de quelques personnes motivées, pas spécialement expertes dans le domaine. Aucun de nous n'est ingénieur au CEA ou physicien de formation, mais on s'est regroupé à l'origine par rapport au projet de construction d'un nouveau réacteur nucléaire, donc EPR, à Flamanville dans la Manche, puisqu'il y avait une grande manifestation les 15-16 avril qui a rassemblé environ 30 000 personnes à Cherbourg pour protester contre cette construction. Donc le collectif rassemble simplement des gens de bonne volonté qui ont envie de prendre du temps pour s'informer sur le nucléaire, sur tous ces aspects-là, et également sur les questions énergétiques de manière plus globale. On ne souhaite pas juste dire ouais, le nucléaire c'est pas bien, bon, ça c'est une chose, mais on souhaite mettre ça en balance avec de vraies questions de société, de vraies questions économiques, techniques, etc. par rapport à des énergies alternatives, globalement les énergies renouvelables.
J'ai une petite question justement sur Kim Turlupine, sur le nucléaire. On ne peut pas, à l'heure actuelle, avec la consommation énergétique telle qu'elle est aujourd'hui, stopper cette énergie nucléaire. Je veux dire, même, quand bien même on ne pourra jamais retrouver la même masse d'énergie, on va dire ça comme ça, le même volume d'énergie avec des énergies renouvelables, que ce soit éolienne, solaire ou autre. Est-ce que c'est vrai? Enfin, je voudrais savoir.
Alors, factuellement, ça serait au moins très optimiste d'affirmer effectivement que la consommation actuelle d'énergie, surtout avec les tendances de croissance qu'elle suit, pourrait être assurée sans nucléaire. D'où d'ailleurs l'intérêt d'envisager ces questions, non pas avec des œillères strictement anti-nucléaire, pro-nucléaire ou énergétique, mais de poser la question par rapport au projet de société de consommation, société industrielle, et de poser la question de la décroissance de certains besoins, notamment des besoins énergétiques. Parce qu'il est vrai qu'effectivement les énergies renouvelables pour une bonne part sont intermittentes, donc le solaire et l'éolien ça fonctionne pas toute l'année. Ceci dit, il faut quand même recontextualiser l'utilisation du nucléaire qui, au niveau mondial, représente 4% de l'énergie utilisée, parce que le nucléaire ne s'utilise que pour produire de l'électricité. L'électricité, c'est qu'une petite partie de ce qu'on utilise comme énergie, parce qu'on saura jamais faire des voitures qui fonctionnent au nucléaire. On sait faire des sous-marins, mais des voitures de la taille de sous-marins nucléaires, ça serait un peu gênant. Et de la même manière, bon, donc en France, on est un peu une exception, puisque la France produit quasiment 80% de son énergie avec le nucléaire. Mais en France, le nucléaire, ça représente quand même que 17% de l'énergie totale consommée. Donc de toute façon, on est très très loin d'une situation où le nucléaire serait la source centrale d'énergie.
Le reste, c'est quoi? C'est de l'énergie fossile?
Le reste, c'est l'énergie fossile, bien sûr, c'est le déplacement et le pétrole, la combustion de pétrole. Donc la réflexion sur le nucléaire, c'est toujours se poser la question. On dit toujours le nucléaire, c'est 80% de notre énergie, mais c'est énergie électrique, et on ne peut pas s'en passer. Donc comme a dit Xavier, c'est bien 17% de l'énergie consommée finale. Donc en soi, c'est pas impossible de s'en passer. Notamment, il y a une association qui s'appelle Negawatt, qui est une association indépendante, hein, qui est d'experts, d'énergéticiens, scientifiques pluridisciplinaires, qui ont réalisé un scénario démontrant qu'on peut se passer à l'échelle de 30 ans totalement de l'énergie nucléaire et diminuer de grandes coefficients 10, du moins
10%, quand je mets 10% de l'énergie fossile, pour avoir un niveau de vie équivalent à 1994. Donc c'est même pas, de se serrer la ceinture, c'est simplement de raisonner correctement notre consommation énergétique.
Ça passerait par quoi, excuse-moi, juste.
Ça passerait par exemple sur le bâtiment, on pourrait gagner un facteur 5 au niveau de la dépense énergétique en utilisant des isolations, en repensant l'isolation. Au niveau de la déperdition en ligne également, c'est relocaliser l'énergie, produire des énergies locales. C'est abandonner par exemple le chauffage de l'eau sanitaire électrique, mais développer le chauffage d'eau chaude sanitaire solaire. Dans une région comme Grenoble, on peut couvrir 70% de la consommation d'eau chaude vers le solaire, donc il reste plus que 30% à couvrir, voilà. Et c'est des technologies très simples qui ne peuvent être qu'améliorées.
Et en termes les concepts globaux qui sous-tendent cette réflexion, ce sont des concepts assez simples qu'on peut tous se représenter, à savoir la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique, c'est-à-dire par exemple utiliser les technologies les plus efficaces pour tel et tel usage. Par exemple, on sait actuellement construire des bâtiments dont l'isolation permet de consommer on va dire entre 4 et 10 fois moins que ce que le bâti actuellement construit consomme. Il y a tout un tas de réflexions de cet ordre, et ce scénario négawatt, donc que vous pouvez consulter sur negawatt.org, est un scénario établi à horizon de 50 ans et qui s'établit aussi dans la perspective de la prise en compte de la problématique du réchauffement climatique. Il faut pas oublier que l'énergie, c'est une question qui est écologiquement pose un enjeu fondamental, puisque on est pris dans le ciseau de l'épuisement des ressources pétrolières, et également du fait que notre civilisation, qui dépend des énergies fossiles, donc charbon et pétrole principalement, l'utilisation de ces énergies crée des gaz à effet de serre, et il est reconnu mondialement, à part par quelques illuminés, que à horizon de 50 ans à partir d'aujourd'hui, il faut avoir réduit par 4 environ les émissions de gaz à effet de serre pour limiter aux environs de 2 degrés le réchauffement climatique moyen. Par rapport à ça, on entend très souvent que le nucléaire, c'est la solution. Alors oui, c'est l'argument marketing tout trouvé pour faire une soi-disant relance du nucléaire. Sauf qu'encore une fois, le nucléaire ne peut être utilisé que pour l'électricité. Et d'autre part, des scénarios ont été établis pour essayer de voir ce que ça permettrait d'économiser comme émission de gaz à effet de serre si on relançait le nucléaire à fond les ballons. Et même si on couvre la Terre de centrales nucléaires, on sait avec des études très sérieuses que ça ne permettra pas de résoudre le problème. Donc quand vous entendez ce type d'argument, faites un grand sourire et rigolez, mais ne prenez pas ça au sérieux. Voilà, il y a des études, je conseille notamment aux gens intéressés de se reporter aux études de l'association Global Chance, qui sont très poussées sur ce sujet-là.
Et sinon, juste pour continuer là-dessus, donc vous parliez d'économie d'énergie, surtout dans les cas de personnes, de particuliers, en fait, des économies qu'on peut faire nous-mêmes, mais il y a aussi l'industrie qui, j'imagine, consomme une bonne part d'électricité, et donc ça nous pousse aussi à nous demander quel choix de société on veut. Est-ce qu'on a besoin de, par exemple, toutes ces industries nanotechnologiques qui vont sans doute consommer plein d'électricité, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et vers quoi on tend, quoi.
Alors là, tu poses la vraie question, puisqu'effectivement, on parle beaucoup, y compris ce soir, de la responsabilité des industriels et de ceux qui fabriquent les divers objets qui consomment des énergies notamment. Mais ça nous exonère pas de nos responsabilités individuelles. Ça nous exonère pas de nous poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce Palm Pilot là qui va me permettre d'organiser ma semaine avec un petit ordinateur, ou est-ce que je peux pas faire ça avec un petit agenda papier et un stylo, comme on a su faire pendant quelques dizaines ou centaines d'années. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 2 voitures? Est-ce qu'on a besoin d'avoir 3 télés dans la maison? Est-ce que c'est vraiment responsable de faire 3 voyages en avion dans l'année, en sachant que un voyage aller-retour Paris-New York, ça nous fait relâcher autant de CO2 en un voyage que ce qu'on devrait relâcher sur une année pour essayer de limiter le réchauffement climatique. Bon voilà, ça pose des vraies questions. Ça nous pose la question à nous qui sommes des humains, mais aussi, comme on nous le rappelle bien trop souvent, des consommateurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on sorte de ce consumérisme et qu'on cherche nous aussi la sobriété en tant qu'être humain dans nos modes de vie, Ce qui ne veut pas du tout dire, comme on s'entend souvent répondre, retourner à la chandelle ou se serrer la ceinture. Ça n'a rien à voir, et ça, c'est des arguments bidons qu'on nous retourne assez souvent.
Oui, ça c'est important de le dire, parce que vachement souvent, quand on critique les nouvelles technologies, depuis le nucléaire jusqu'aux nanotechnologies, ou même avant d'ailleurs, on s'entend répondre qu'on est des obscurantistes. Et que voilà, qu'on veut retourner, comme tu dis, à la chandelle. Et ça, ça bloque tout le débat et ça permet pas de poser vraiment la question. Enfin bon, c'est un argument facile, quoi.
Juste une petite définition de obscurantiste, qui est quelqu'un qui veut pas justement transmettre un savoir, ou qui est contre en fait finalement la diffusion d'un savoir sincère et que lui il croit vrai. Bah justement, moi, il me semble que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est exactement le contraire de ça. C'est justement de mettre notre savoir de citoyen, celui qu'on a pu rassembler en toute sincérité, avec le maximum de rigueur possible, de le mettre à la portée de tout le monde. Donc c'est exactement l'inverse. Les obscurantistes, c'est justement, à mon avis, ceux qui veulent faire croire que les nanotechnologies, c'est génial et que ça résoudra tous nos problèmes.
Et bon, on peut dire que je pense qu'on serait nombreux à être d'accord sur le fait que les obscurantistes de nos jours sont plutôt ceux et celles qui parsèment leur discours du mot croissance à longueur de phrase. Alors quand on nous dit ben recherchons la croissance 2% par an, c'est le minimum, machin, etc. 2% par an, ça veut pas dire plus 2 chaque année, ça veut dire que en quelques dizaines d'années on double toutes nos consommations, on double tous nos besoins énergétiques. Donc ça veut dire qu'on suit une courbe exponentielle, donc on va se retrouver dans des situations de consommation absolument faramineuses. Et à l'heure actuelle, on sait déjà, en faisant des projections un peu imagé, que si tout le monde avait le mode de vie des Américains, ben, il nous faudrait 8 planètes. Si tout le monde avait le mode de vie des Européens, il en faudrait 3. Moi, je vous laisse compter le nombre de planètes dont on dispose.
On pourrait peut-être revenir sur le lien entre les nanotechnologies et le nucléaire, puisqu'on a dit au début de l'émission que le CEA était pilote du projet Minatec. Donc, qu'est-ce qui relie ces deux technologies ?
On peut tracer pas mal de parallèles entre les nanotechnologies et le nucléaire. Déjà, effectivement, ce sont les mêmes acteurs. Concrètement, c'est le commissaire à l'énergie atomique qui est le pilote du projet Minatec, qui va donc développer les nanotechnologies en France. Les différents parallèles, c'est notamment, c'est une recherche étatique dans les deux cas, et aussi qui intéresse les industriels. C'est une absence de débat. C'est des technologies qui sont développées sans débat et sans donner de pouvoir à la population. Concrètement, les OGM, la majorité des Français sont contre, mais on a des OGM dans les champs et dans les assiettes. Concrètement, la majorité des Français sont contre le développement nucléaire. On a des centrales nucléaires et bientôt on va en construire de nouvelles. Et sur la nanotechnologie, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de consultation, où ils viennent après coup et sans réel pouvoir de décision. D'autres parallèles, c'est ce qu'on appelle la big science. C'est-à-dire que pour développer les nucléaires ou les nanotechnologies, ça se fait pas avec... il faut beaucoup d'argent, il faut des gros moyens. Ce sont donc des moyens étatiques, ça mobilise beaucoup de capitaux, avec une grosse division du travail, etc. Donc ça implique aussi un modèle de société. Je pourrais aussi parler du fait que c'est un modèle sécuritaire dans les deux cas. Le nucléaire, c'est typiquement le modèle sécuritaire. On peut pas laisser les centrales nucléaires dans les mains de la population, parce que c'est des outils tellement, tellement dangereux que ça implique une surveillance, ça implique un contrôle très très strict des zones. Nanotechnologie, typiquement, projet sécuritaire. On va développer des nanocaméras, des micro-puces de contrôle, la biométrie. Puis un dernier parallèle, après je me tais, c'est sur la société de consommation. Dans les deux cas, on est dans une logique de consommation, de croissance. Nucléaire, un maximum d'énergie pour faire un maximum de consommation, de transport, etc. Et nanotechnologie, c'est l'idée de faire de nouveaux gadgets, des nouveaux marchés industriels, avec des nouveaux ordinateurs portables, nouveaux téléphones portables, etc.
Il y a un autre parallèle que je verrais qui est peut-être un petit peu plus métaphorique. C'est sur le fait que aussi bien avec les nanotechnologies qu'avec le nucléaire, on se dirige vers le domaine de l'invisible, de la menace inodore, incolore, invisible, donc indétectable, du moins par le commun des mortels et sans appareil spécifique. Alors qu'on sait tous, par exemple, reconnaître un incendie. Par contre, quand vous êtes irradié, vous le sentez pas, et les effets se font ressentir, peuvent se faire ressentir 15 à 20 ans plus tard. De la même manière, les risques des nanotechnologies, on se situe sur des tailles de molécules qui peuvent traverser la peau, les vaisseaux sanguins, etc. Et ça, vous n'allez pas non plus le voir. Donc voilà encore peut-être un lien qui permet notamment tout un tas de mensonges et toute une propagande communicationnelle qui lui permet de se donner toute liberté.
En fait, on va devoir conclure bientôt, mais il y a un point important dont je voudrais vraiment qu'on parle. On a parlé des nanotechnologies comme outil de contrôle dans une société sécuritaire. Et justement, le leader du réseau Sortir du Nucléaire, Stéphane Lhomme, a eu quelques problèmes avec les autorités. Donc, pourquoi et à votre avis, est-ce que c'est que le début ? Est-ce que...
Alors, donc, juste pour rappeler les faits, le porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire, Stéphane Lhomme, a été placé en garde à vue pendant 14 heures mardi dernier, suite à une perquisition de la DST à son domicile, qui a saisi ordinateur portable et téléphone. Tout ça parce que le réseau Sortir du Nucléaire, en fait, a révélé l'existence, au cours du débat national sur le réacteur EPR, a révélé l'existence d'un document confidentiel secret défense, selon lequel le réacteur EPR, dont la construction est prévue, ne résisterait pas à la chute d'un avion commercial, donc à un événement du type 11 septembre. Et donc, c'est à la recherche de ce document en tant que tel que la DST a perquisitionné chez Stéphane Lhomme, donc qui est ressorti de garde à vue. Je l'ai eu incidemment au téléphone tout à l'heure pour une question anecdotique. Il m'a dit lui-même que selon lui, les ennuis ne faisaient que commencer. Et donc, il risque 75 000 euros d'amende et X années de prison. Voilà, donc c'est un exemple typique de censure, et les obscurantistes, comme le disait Lucas tout à l'heure, ils sont peut-être plutôt du côté de ceux qui font une rétention d'informations.
On peut dire que le réseau Sortir du Nucléaire appelle justement toutes les organisations qu'ils souhaitent à publier ce document sur leur site internet, à le diffuser pour montrer qu'on est tous solidaires par rapport au réseau Sortir du Nucléaire, et que ce document il n'a pas à être secret défense, on doit être informé de ces questions-là, on doit tous s'informer, et donc... à bas l'État capitaliste.
Et c'est choisir en conscience en fait une technologie et si on n'a pas l'information, comment le citoyen peut se faire une vision objective d'un choix technologique, non moins sur l'énergie. Donc je sais pas, on a peut-être des passages sur ce document, c'est peut-être intéressant pour voir la vision donc de DDF et donc sur le projet EPR. Je vais laisser la parole à Xavier.
Deux petits extraits, donc extraits du document confidentiel en question. Nonobstant l'aptitude du projet EPR à faire face à des chutes d'avions, il convient de noter qu'EDF n'envisage pas d'assurer une capacité de résistance vis-à-vis de tout acte de guerre ou tout acte terroriste envisageable.
Il valait mieux pas que ça se sache, hein, d'un autre côté.
Voilà, donc je vous invite à aller tous télécharger le document, à le diffuser largement. Il est sur le site de Greenpeace, du réseau, etc.
Je me permets juste de dire un petit truc, c'est un peu le fond de ma pensée. Quand on accuse ceux qui s'opposent aux nanotechnologies, justement d'obscurantistes ou autres, je pense qu'il faut pas, à la rigueur, pointer du doigt ni les nanotechnologies ni le nucléaire, mais la politique et les gens qui font la politique et le choix de société. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a dit là dans cette émission, c'est une remise en cause, hein, c'est discuter d'un choix de société. Donc je pense qu'il est préférable de dire non à ce choix de société plutôt que non aux nanotechnologies. Je pense que vis-à-vis des gens qui les font, les nanotechnologies, ça passera déjà mieux. Enfin, c'est un petit...
Moi, je suis pas d'accord, par exemple, parce que je crois que les nanotechnologies, elles font partie de cette chose société. Elles peuvent pas, tu peux pas avoir un autre type de société avec les nanotechnologies. Moi, je suis pas sûr.
Si, pourquoi pas? Je pense que c'est tout simplement la politique qui sous-tend la façon de les faire et la façon de les financer aussi.
Ouais, c'est-à-dire que pour toi, par exemple, la technologie, c'est quelque chose de neutre, et donc c'est ce qu'on en fait qui sera bon ou mauvais. C'est cette thèse-là que tu soutiendrais, par exemple.
C'est pas que, de toute façon, elle est sous-tendue par un choix politique. Je veux dire, c'est l'utilisation qu'on va en faire, et c'est ce pourquoi on l'a. Enfin, je veux dire, elle s'intègre à un modèle de société. Tout ce qu'on a dit là, c'est vraiment une remise en cause d'un modèle de société, pas une remise en cause du savoir, de la diffusion des savoirs ou de la recherche même.
Il y a quand même une différence entre la technique et la science, dans le sens où la science devrait être soumise à des choix politiques et devrait être soumise aux choix et aux souhaits des citoyens, alors qu'actuellement la science est plutôt soumise aux intérêts des marchés, c'est-à-dire quelle science va nous permettre de faire le maximum de produits à vendre. Voilà, donc la science est plus orientée par ça que par des intérêts, par l'intérêt général.
Donc avant de conclure sur un petit morceau de musique, justement au sujet de cette recherche fondamentale dont on nous parle souvent, il faut bien voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de recherche fondamentale. C'est uniquement au niveau d'un facteur temporel qu'on peut parler de recherche fondamentale, c'est-à-dire que la recherche directement applicable, c'est sur une échelle de quelques mois ou quelques années, et ce qu'on appelle aujourd'hui recherche fondamentale, c'est sur une échelle, allez, de, disons, peut-être une dizaine d'années, mais une recherche fondamentalement désintéressée, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire qu'elle existe, elle est beaucoup trop soumise au poids des intérêts privés.
Et donc, on va passer un petit morceau de musique, c'est ça, Bastien ?
Ben oui, c'est tout à fait ça. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, un petit morceau de Cowboy Fringant, un morceau québécois, voilà.
Ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien, plus rien. Ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent. Ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. Retombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
Juste pour reprendre ce que j'ai dit en dernier, je voudrais corriger mes propos. J'ai dit qu'il n'y avait plus du tout de recherche fondamentale. Je voudrais corriger en disant qu'il existe encore une recherche fondamentale, notamment tout ce qui est astrophysique, paléontologie, etc. Mais malheureusement, c'est aujourd'hui le parent pauvre de la recherche et c'est là où on coupe les crédits. Voilà.
Et à bas l'état capitaliste.
À bas l'état capitaliste. À bas
l'état capitaliste.
Prévu pour demain. Mais c'est déjà bien d'y penser.
Donc,
Après cette passionnante émission, on va passer maintenant aux événements à venir sur Grenoble et la région. Et donc pour commencer avec les rencontres libertaires qui ont lieu à l'ADAEP les 18, 19 et 20 mai. Donc ça a commencé aujourd'hui. Donc là, vous avez raté une balade à vélo si vous avez écouté l'émission. Mais...
Vous
entier,
avez bien fait
vous avez, voilà, je pense que vous n'avez pas raté grand chose, mais juste une balade en vélo, mais quand il pleuvait, c'était pas, ça devait pas être terrible. Mais, donc c'était départ de la DAEP et fin de la balade autour d'une bière bio à la DAEP, donc peut-être que vous pouvez encore aller à la Mazurka, pardon. Et peut-être que vous avez encore le temps d'aller boire une bière à la Mazurka. Ensuite, donc vendredi 19, demain à 19h, apéro avec Radio Libertaire. À 19h30, conférence débat sur l'anarchisme. À 22h, bal folk avec le PSS, donc le Patate Sound System, notre groupe local de folk. Le 20, donc ça sera samedi à 10h30, un débat autour des prisons et de leur abolition, bien sûr. Hein. À 14h, toujours samedi, débat autour des nanotechnologies. Tiens, ça me dit quelque chose ça. Avec des membres d'OGN. Donc bon, on revient peut-être pas là-dessus. À 17h, une rubrique qui s'appelle Manger les médias. Donc oui, voilà, on va manger les médias. Donc plusieurs petites choses pour enfin une critique des médias donc à 17h. À 19h30, danse théâtre et à 22h concert. Voilà. Alors pour le contact, pour en savoir plus en fait sur ces rencontres libertaires, vous pouvez contacter le groupe Jules Vallès au Cap Beria, 15 rue Georges Jacquet à 38100 Grenoble. Voilà. Ensuite, vendredi 19, 17h, à la salle Amal de la MJC des Allobroges, qui se trouve au 57 avenue Randon à Grenoble donc, présentation des associations israéliennes qui militent pour une paix juste et panorama de la situation au Proche-Orient. Donc, pour préciser un petit peu, Tamar présentera trois associations, composantes actives de ce qu'il est convenu d'appeler le mouvement anticolonialiste en Israël. Donc, c'est proposé par l'UJPF, les Femmes en Noir et le collectif Palestine. Et donc, ça, c'est vendredi 19 à 17h à la salle Amal de la MJC des Allobroges. Toujours vendredi 19 à 20h, à la Maison du Tourisme, une conférence-débat colonisée, exterminée. C'est donc une conférence-débat sur la colonisation qui est organisée par l'association Culture et Dialogue. Voilà. Donc ensuite, on passe au mardi 23 mai, toujours à 18h, à 20h30, au 102 rue d'Alembert. Une soirée intitulée École de la critique des médias. Donc c'est des ateliers autour de la critique des médias. Donc et là le thème ça sera la construction médiatique de l'islamophobie en France d'après le livre de Thomas Deltombe qui s'appelle L'islam imaginaire, donc construction médiatique de l'islamophobie en France de 1975 à 2005. Donc ça c'est au 102 rue d'Alembert mardi 23 mai à 18h. Ensuite, mardi, toujours 23 mai, à 18h30, cette fois, au bas-côté, rue Nicolas Chaurier, à côté du Resto du Cœur, parce que j'ai pas le numéro exact, un apéro revue de presse, lecture d'extraits de journaux issus de la presse alternative et indépendante française, pour nous changer de la lecture de Libé et Charlie. Voilà, ça c'était donc, ça sera au bas-côté. Ensuite, mercredi, le lendemain, à 19h, au local autogéré, 7 rue Pierre-Dupont, rencontre et projection sur la prison. Et voilà, et on ne sait pas plus, il faut aller sur le site. Le mercredi, toujours à 20h30, à la Maison des Associations, une soirée organisée par OGN, donc toujours opposition grenobloise aux nécrotechnologies, qui se passe dans le cadre de la campagne contre l'inauguration de Minatec. Et là, ça sera un débat sur la destruction du sillon alpin. Et c'est une soirée qui s'intitule « Les cobayes prennent la parole ». Voilà, cobayes, c'est nous. On comprend, on reprend la parole. Et donc, pour finir, on va revenir un peu sur le thème de l'émission. Lucas, tout à l'heure, on avait parlé, mais peut-être revenir sur les 4 jours contre Minatec et son monde. Donc, ça sera 4 jours autour de l'inauguration de Minatec, du 30 au 2, donc 30, 31 mai et 1er et 2 juin. Ça commencera donc le 30 à la Bifurque avec à 17h des ateliers et des réflexions thématiques et d'échanges pratiques donc à la Bifurque. Le 31 à 20h30, une réunion publique sur les nanotechnologies et les raisons de s'y opposer. Tout ça, c'est à la Bifurque. Le 1er à midi, place Félix Poula, une manif contre Minatech, donc la veille de l'inauguration de Minatech, et le 2, l'inauguration de Minatech, et on sera encore là. Donc voilà, à côté de ça, il y a des permanences à la Bifurque tous les jours, enfin le mardi 30 et le mercredi 31 de midi à 21h et le jeudi 1er de 9h à 11h. Alors, vous avez sûrement pas eu le temps de tout noter et vous pouvez aller chercher des informations supplémentaires sur tous ces événements sur le site de Indie Media Grenoble, donc grenoble.indiemedia.org. Et voilà, et c'est fini.
Et vous pouvez aussi trouver toutes les infos concernant les 4 jours là, contre Minatech sur le site de OGN qui est ogn.ouvaton.org. Donc ogn.ouvaton, c'est O-U-V-A-T-O-N.org.
Ouvaton, c'est une bonne question à se poser.
Tout à fait.
Donc on vous rappelle que cette émission sera rediffusée samedi prochain, donc c'est le samedi 20 si je ne me trompe pas, à 15h, toujours sur Radio Kaleidoscope. Et vous pouvez la retrouver sur le site d'Indie Media d'ici quelques jours aussi, enregistrée. Et sinon la prochaine émission aura lieu le 15 juin, jeudi 15 juin, donc dans un mois, et aura pour thème les médias.
Et comme on oublie de dire depuis 6 mois qu'on fait cette émission de radio qu'on est bien sur Radio Kaleidoscope, à chaque fois, ben, on vous le dit, vous étiez bien sur Radio Kaleidoscope. Voilà.
Salut!
Au revoir!
Et pour terminer, on va vous passer un petit morceau de la compile Tania Solium du groupe Pleine Crasse, un groupe grenoblois, donc, et la chanson s'appelle La Ville.
Radio Kaleidoscope.